parabole du jour avec le Père Willem.
Entre charnel et parole, la famille. Il importe de dépasser un point de vue binaire selon lequel il y aurait d'un côté le bon, de l'autre le mauvais. En réalité, nous vivons tous ce que Platon appelait la vie mélangée, dans laquelle bien et mal s'entendent. L'éthique elle-même n'est pas binaire. Elle reconnaît des degrés, un meilleur possible. Serait à travailler ici ce que un texte important de Jean-Paul II appelle la loi de la gradualité, qui a souvent été pensée dans un contexte différent, la contraception, et comme la montée vers un idéal. Ici, le principe serait d'accéder au meilleur par degrés, par paliers, autant que faire se peut. Par exemple, en étant attentif aux carences qui viennent de l'absence de père ou de mère, le parent gardien aura soin de répondre à celle-ci en palliant les conséquences néfastes. Favoriser une relation bonne et régulière avec le parent absent, sauvegarder une image valorisante de celui-ci, aider le nouveau conjoint à prendre sa place, qui n'est pas la place de l'autre parent, mais qui est une place de réelle présence tout de même. Lequel compagnon ou compagne pourra poser main geste de sollicitude, de soin, d'affection même. Il pourra pleinement remplir son rôle d'éducateur sans pour autant prétendre se substituer à l'autre parent d'origine. La fonction éducative n'est pas la fonction parentale. Il laissera vide cette place. Il laissera même devenir vivante, si possible, la relation qui lui correspond. En cas d'absence de compagnon, le souci de la présence de référents masculins sera alors au premier plan des préoccupations de la mère. Mutatis mutandis, bien entendu, pour le référent féminin le cas échéant. Entre la chair et la parole, il existe toutes sortes de transitions, à commencer par celle de l'affection, car l'affection est charnelle. Une éthique de la gradualité est une éthique de la croissance. Elle accompagne la vie au jour le jour, et nous ne vivons qu'un seul jour à la fois. Elle est aussi une éthique de la responsabilité, la réponse à un appel venu des besoins de l'autre, de ses souffrances, de ses manques. Un regard attentif pourra pallier bien des blessures. Il peut transformer un obstacle en tremplin. L'école des recommencements peut être une école des vulnérabilités, des nôtres, de celle du conjoint, de celle des enfants. C'est pourquoi affirmer qu'a priori le lien conjugal vivant et durable est le meilleur fondement pour la famille n'empêche pas d'accueillir et de prendre en compte toutes les figurations familiales, toutes les configurations possibles. Elles sont diverses, variées, de plus en plus variées aujourd'hui. Au contraire, avoir à l'esprit ce qui est souhaitable permet de mieux déceler ce qui manque et de tenter d'y remédier au moins partiellement. Les questions relatives à la famille sont souvent abordées sous l'angle exclusivement privé, intime, affectif. La montée des divorces est le symptôme du malaise global d'une culture qui, bien au-delà de la sphère familiale, ne favorise pas le sens de l'être lié. Les difficultés de la transmission entre les générations proviennent pour une grande part de ce manque de relais, de médiation, de référence commune. Pratiquement, serait à développer les lieux de parole, d'entraide, de soutien, d'échange, de formation, de réflexion, soit sur la vie conjugale, soit sur la responsabilité parentale. Bien sûr, ces lieux existent, mais ils sont trop rares, trop peu connus. Et c'est ici que la notion de communauté peut se révéler décisive. Si la grande société, la collectivité dans son ensemble, n'ose pas être porteuse de normes, en l'absence peut-être de références communes librement consenties, cette fonction revient alors à des groupes moins anonymes, plus cohérents, où se vivent des liens à la fois de solidarité et de libre appartenance autour d'un corpus de croyances et d'options fondamentales sur la vie. Resterait d'ailleurs la tâche de mieux préciser les fonctions de l'État et celles de la communauté d'appartenance, que ce soit ecclésiale, surtout. Comme cadre pour l'ensemble du corps social, l'État a pour tâche de soutenir les formes de vie qui donnent a priori le plus de chances aux biens humains fondamentaux, telle l'articulation entre conjugalité et parenté ou la cohérence entre naissance et filiation. Comme lieu de communion, l'Église a pour vocation de donner corps à une inspiration qui se traduit par des intuitions, telles le sens de la vie comme don, celui de l'amour inconditionnel, celui de l'altérité possible, mais de cette altérité sexuelle comme expérience spirituelle, celui du corps comme lieu où souffle l'esprit, celui de la place faite aux plus petits. La foi religieuse n'est pas une névrose, elle est réaliste et s'allie avec la raison pour discerner des biens humains fondamentaux. Les croyants éviteront donc les pièges qui voudraient, lors de certains débats, les enfermer dans les limites du confessionnalisme. Philosophiquement, on se demandera toujours si le trépied nature, culture, liberté, par quoi se caractérise l'humain, est bien honoré. Si la triple articulation en question est bien assurée, faute de quoi l'on aura affaire à une pensée partiale, amputée, comme il en existe beaucoup, spirituellement ou chrétiennement, on se fera attentif à cette mystérieuse inscription du surnaturel dans le temporel en laquelle Charles Péguy voyait l'essence du christianisme au mystère de la chair comme lieu du don où retentit une secrète parole. Donner la vie, c'est la recevoir. Il faut la recevoir pour la donner. Il faut la donner pour la recevoir. L'expérience centrale de la famille se situe dans ce registre.